sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard. Nous sommes le 26 septembre et aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler à toutes sortes de gens, de toutes sortes de sujets. Nous aurons en notre compagnie Mme Chantal Fortier, qui est directrice du transport adapté de la Société de transport de Montréal. Le transport adapté, on le sait, est un sujet de l'heure et ça change souvent et on va en parler avec Mme Fortier avec plaisir. Nous parlerons également de logements adaptés, entre autres sur la rive sud de Montréal, en Montérégie, avec M. Pierre Nadeau, agent de développement pour l'Association d'information en logements et immeubles adaptés. Nous allons rencontrer Guillaume Parent, président et conseiller en sécurité financière chez FinHandicap, mais aussi une des personnes qui s'implique dans un mouvement qui s'appelle Handicap sans pauvreté, et nous parlerons de la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Plus tard, on terminera avec la revue de presse, mais avant, amusons-nous un peu et nous aurons le plaisir de discuter de jeux vidéo avec notre chroniqueur en technologie, Alban Thomas. Bonjour Alban.
Bonjour, ça va bien?
Ça va super. Et les jeux vidéo, c'est un domaine qui est tellement vaste. Il y a des nouveaux jeux qui sont présentés au public chaque semaine. Il y a des jeux plus anciens qu'on aime parce qu'on est habitué. Mais aussi, ça amène des difficultés parfois d'accessibilité ou de contact ou de communication avec des personnes qui peuvent avoir des limitations, soit visuelles, auditives ou motrices.
Effectivement, parce que le jeu vidéo, c'est un art total hein, qui comporte de l'image, du son, et puis en plus de l'interaction, donc il faut pouvoir bouger. Et puis, on voit que ces derniers temps, l'industrie commence à faire, un grand pas en avant. Et puis, il y a des innovations technologiques qui sont mises en place. Donc, moi, je suis là pour parler de ça. On va parler d'innovation et d'innovation technologique. Et puis, j'ai envie de dire, commençons un petit peu par dresser un petit portrait de l'industrie. L'industrie, en fait, c'est la première industrie culturelle dans le monde, devant le cinéma et la musique.
Ça veut dire qu'il y a plus d'argent investi en développement, mais aussi en achat de la part du public.
Exactement.
Il y a plus de gens qui sont touchés par le jeu vidéo que par... Et pourtant, on a l'impression que c'est un truc d'ado, là, je m'excuse de dire ça, la façon que les médias traitent le sujet.
Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'argent qui sont mis, il y a beaucoup de recherche et de développement, et il y a surtout, évidemment, beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses. Hein. Au Canada, en 2021, c'est 4,3 milliards de dollars de revenus, donc c'est quand même beaucoup.
Il y a combien de gens qui font du jeu vidéo, là, plus que, je dirais, une fois par mois?
Il y en a beaucoup, beaucoup. De manière régulière, il y a 60% des adultes et 90% des enfants adolescents au Canada. Ça, c'était en 2020, c'était une étude de l'Association canadienne du divertissement. Et en plus, on voit que ça augmente évidemment tous les ans.
Donc, que les plus jeunes qui je dirais pas qu'ils sont nés avec la manette devant eux, ces plus jeunes-là vont devenir des adultes, vont probablement continuer à s'adonner à des jeux vidéo, et ainsi de suite. Donc, la différence entre le créneau jeune-adolescent et adulte va finir par se fondre.
Oui, c'est exactement ça. C'est ça, et en plus, on peut le voir, par exemple, à l'âge moyen des joueurs. L'âge moyen, en ce moment, cette année, c'est de 34 ans, et ça fait que d'augmenter, justement, c'est littéralement ce que tu disais, parce que les joueurs grandissent, continuent de jouer, et puis il y a de plus en plus de gens qui jouent.
Donc, et de là, le défi pour les joueurs de jeux vidéo. En anglais, on dit des gamers.
Oui. Hein?
Est-ce qu'il y a un terme français, au lieu de dire gamer, est-ce qu'on dit quoi? On dit des joueurs?
Des joueurs. Je pense que des joueurs, ça suffit.
Alors, qu'est-ce qui arrive pour les joueurs qui ont des challenges d'appréhension du jeu, que ce soit visuel ou autre?
Ouais, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça fait très longtemps qu'il y en a. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites dans le passé. Mais là, évidemment, quand on a 4,3 milliards de dollars de revenus, on peut se permettre de faire de mettre de l'argent dans la recherche. Et puis, on se retrouve avec des technologies qui vont aider de plus en plus de monde à pouvoir accéder à ce passe-temps qu'est le jeu vidéo. Moi, je te propose de sauter directement dans le sujet.
Oui.
Si on parle des handicaps visuels partiels, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui sont faites et on les trouve directement à l'intérieur des jeux.
Alors, des fois, il y a des intégrations qui existent déjà dans le jeu qu'on sort de la boîte, là, façon de parler parce qu'on ne les sort pas de la boîte, là, mais qu'on va télécharger.
Ouais, c'est exactement ça. Et la plupart des réglages, ça va se trouver dans les jeux. Donc, tu peux trouver des filtres de couleurs, des filtres de contraste. Notamment pour les personnes daltoniennes, c'est très utile. Il y a des choses qui sont préfaites pour eux. Mais on peut avoir aussi d'autres réglages comme des grossissements, une customisation complète de ton interface. Si tu as du mal à voir un petit élément, c'est bien d'avoir la possibilité de l'agrandir et de pouvoir mieux gérer en fait le jeu. Mais moi, évidemment, il y a un problème. Hein. Le problème, c'est que toutes ces technologies sont intégrées jeu par jeu. Donc si j'ai une technologie que j'adore dans un jeu et que j'en achète un deuxième et qu'elle n'est pas là, je suis un petit peu coincé. Je ne suis pas aussi à l'aise qu'avec mon premier jeu.
Il faut recommencer.
Ouais, c'est ça, c'est un petit peu difficile. Moi, j'ai une petite solution. J'amène une petite solution. C'est un logiciel de traitement d'image qui s'appelle Reshade, en anglais évidemment. Reshade.
D'accord.
Et puis, ça permet de customiser en fait toutes les couleurs de notre logiciel. Donc ça peut être les couleurs à l'intérieur du jeu, de l'interface, mais aussi les lumières, augmenter le contraste, changer les couleurs de certains éléments. Et ça va permettre vraiment de se mettre à l'aise. Une fois qu'on a nos préconfigurations qu'on préfère, on peut le passer de jeu en jeu. Et là, ça va vraiment être utile pour plus se casser la tête et plus rentrer dans les réglages un par un.
Parce que c'est vrai que souvent, dans les jeux vidéo, si l'action se passe dans un endroit mal famé, que ce soit un donjon ou les égouts de New York,
ouais.
Tout est sombre.
Ah, tout est sombre, ouais, c'est vraiment difficile. Donc on nous fait régler un petit peu le contraste, mais la plupart des jeux ne vont pas aller très très loin. Alors que si on a déjà un logiciel qui tourne derrière, qui va permettre de nous aider, qui va s'adapter un petit peu à tout ça, ça va être très très utile.
Alors ça s'appelle Reshade, R-E-S-H-A-D-E.me.
Ouais, le site internet où on peut le télécharger, c'est reshade.me, donc .me.
Parfait. De toute façon, pas besoin de se casser la tête, on va tout mettre ça sur le site de Canal M, n'est-ce pas?
Effectivement.
Voilà.
Et alors ça, c'est pour les handicaps visuels partiels. Mais alors, si on est non-voyant, par exemple, ça va être encore plus difficile de jouer, puisque c'est un jeu vidéo, la composante vidéo est très, très importante. Mais si on ne voit rien du tout, il y a des choses qui existent, mais c'est difficile. C'est extrêmement difficile d'adapter un jeu qui a été fait pour être joué à l'œil et qu'il soit uniquement jouable au son. Mais il y a de nouveaux jeux, de nouvelles technologies qui sont en train d'être développées. Et moi, j'ai sélectionné deux jeux en fait que les gens peuvent télécharger
sans aucune image.
Sans aucune
en
image.
En fait, ils sont conçus pour ne pas avoir d'image.
Exactement. Et donc là, si vous voulez, vous pouvez prendre votre téléphone, par exemple, et commencer à télécharger un jeu qui s'appelle A Blind Legend. Donc A Blind Legend en anglais. Par contre, le jeu est en français. C'est possible de l'avoir en français, donc ça, c'est assez chouette, en français et en anglais. Et il est gratuit sur iOS et Android, donc sur les téléphones portables. Il est payant sur PC, mais c'est exactement le même jeu. Je conseille de le prendre au pire sur le téléphone. Et donc là, ça va être un jeu d'action-aventure, ou alors on aura une voix qui va nous parler, qui va nous décrire l'aventure qui se situe. Et puis on a des actions à faire. On peut appuyer n'importe où sur l'écran pour, par exemple, bloquer un coup, attaquer, se déplacer. Et tout ça se fait très, très bien à l'oreille.
Ça s'appelle A Blind Legend, et c'est disponible autant en français qu'en anglais.
Ouais.
Et donc, c'est conçu pour n'avoir rien du tout à l'écran.
Exactement.
Parfait.
Exactement. Il y a un deuxième jeu que je peux conseiller qui est exactement sur le même principe, qui s'appelle Lost in Blindness. Celui-là, il est payant sur toutes les plateformes. Donc, je conseille de commencer par le premier, évidemment.
Ouais.
Mais celui-là, il est aussi disponible en français et en anglais. Et ça reprend un petit peu les mêmes mécaniques de jeu, les mêmes principes de jeu. On va écouter une voix, un narrateur qui va nous parler. Et puis, avec l'écran, on va pouvoir faire des actions.
Et là, encore une fois, même si le titre est en anglais pour des questions de marketing, Lost in Blindness aussi, c'est disponible en français.
Oui.
Et encore une fois, ça peut être sur Android, iOS, Mac, PC, tout ça.
Exactement. Et j'ai envie de parler, en fait, dans cette chronique, de la plus grande technologie qui existe, qui est pour les handicaps moteurs. Pour n'importe quel handicap moteur, Microsoft, lui, il a révolutionné le monde de l'accessibilité dans le jeu vidéo avec un nouveau périphérique. C'est une technologie qui s'appelle, je le dis encore en anglais en premier, Adaptative Xbox Controller. Donc ça s'appellerait le contrôleur adaptatif Xbox. Et ça, c'est une sorte de boîte noire sur laquelle on peut brancher n'importe quel périphérique. Et on peut jouer à notre jeu avec n'importe quoi. La boîte de base coûte $129.99.
On va dire 130.
Ouais, 130, c'est plus simple.
Mais d'accord.
C'est plus simple.
Donc, pour $130 plus taxes, mais ça s'achète un appareil comme ça. On peut retrouver ça dans un magasin ou on peut l'acheter en ligne?
Ouais.
Chez...
généralement, dans les magasins de jeux, on peut demander à ce qu'ils les commandent s'ils ne l'ont pas en magasin. Sinon, sur le site directement de Microsoft, vous pouvez l'acheter. et c'est assez utile.
Alors, c'est un contrôleur adaptatif qui va permettre à quelqu'un de... Comme c'est un Xbox ordinaire,
ouais.
Mais à ce moment-là, les commandes vont devenir verbales. Comment ça va...
Alors, ça va entièrement dépendre. On peut brancher n'importe quoi dessus. Donc,
d'accord.
On peut brancher des claviers, des souris, des périphériques, n'importe lesquels, des interrupteurs, des boutons, des pédales, des senseurs de proximité pour avoir le mouvement... Et donc, on peut brancher n'importe quoi et se faire une customisation complète de son contrôleur pour jouer de la manière dont on veut.
Donc,
si on veut jouer à une main, si on veut jouer juste avec les yeux, si on veut jouer n'importe comment, il sera possible de tout customiser et de tout partager avec les autres utilisateurs.
Et donc, à ce moment-là, finalement, c'est une interface qui ne laisse pas de traces parce que c'est la même technologie Xbox au bout.
Oui.
Donc, ce qui est à l'écran, la communication avec les autres joueurs, si on fait ça en ligne,
oui.
va être la même chose.
C'est ça, ce sera vraiment la même chose. Personne ne peut savoir qu'on utilise de quoi
oui,
que ce
d'accord.
soit. Et bon. C'est possible vraiment de changer tout ce qu'on veut.
Ouh, d'accord.
Donc,
c'est bien. Comment on fait pour... est-ce qu'il y a un regroupement de toutes ces idées-là? Comment est-ce qu'on peut participer à un forum de trouvailles de ce genre-là?
Alors évidemment, il y a toujours le forum Microsoft où les gens se réunissent, mais sur n'importe quel réseau social, il est très facile de trouver des groupes, que ce soit sur Facebook, Reddit, Instagram ou quoi, de personnes qui ont des difficultés à servir des manettes traditionnelles et qui vont partager leur setup, leur configuration pour pouvoir jouer différemment.
Leurs trucs, leurs astuces.
C'est ça, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'évidemment, on peut brancher des périphériques qui sont créés spécialement, vendus par Microsoft pour ça, mais comme on peut brancher n'importe quel autre périphérique, évidemment, il y a des petites astuces qui se donnent, tel clavier est mieux qu'un autre, tel bouton est mieux qu'un autre, etc.
Oui, parce que on peut profiter de l'expérience d'autres personnes, peut-être avec une mobilité réduite, qui ont fait des essais-erreurs, qui ont trouvé ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas.
Exactement.
Il y a une association qui s'appelle Cap Game.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Alors ça, moi, je conseille aux personnes qui ont envie de jouer aux jeux vidéo, de commencer ou alors d'améliorer leur confort, d'aller voir. L'association, c'est une association française qui a un site internet capgame.fr.
C'est C-A-P-G-A.
Oui.
ME.fr.
Exactement. C'est une association en fait qui propose des tutoriels sur l'installation du matériel informatique, mais aussi qui font des tests de jeux pour savoir quels réglages à l'intérieur des jeux sont plus développés ou pas. Donc ils font des grands tests où ils recensent les réglages d'accessibilité. Ils ont trois catégories. Donc ils vont attribuer trois notes et
d'accord.
ils évaluent en fait les efforts du jeu à s'adapter à des handicaps visuels, auditifs ou moteurs.
Alors, selon la situation dans laquelle on se retrouve, si on vit avec un handicap qui limite l'accès par la vue, l'ouïe ou pour la motricité, en allant voir www.capgame.fr, on va y trouver notre compte, on va avoir un peu de support, un peu de soutien.
Exactement. Moi, je conseille vraiment leurs tests de jeu qui sont très, très détaillés et on peut voir très clairement quel jeu est fait pour nous, en tout cas, ou alors est plus facile d'accès.
Ben, surtout avant de commencer à payer pour télécharger un jeu, puis après ça, s'apercevoir que, ah oui, mais je ne peux pas tout à fait le jouer, puis je ne suis pas confortable, c'est pas fait pour moi.
Exactement.
Ben, ça, c'est formidable. Ben, merci beaucoup, Alban.
Merci beaucoup.
Évidemment, c'est important que tout ce que vous venez de nous dire, on va le retrouver sur notre site.
Oui. Hein,
parce que prendre tout ça en note rapidement, c'est pas facile. Et ce qui est bien, on va en reparler. Voilà.
Oui, on a d'autres choses à dire, ça ne s'arrête jamais.
Bravo. Alors, on va reparler de technologie, peut-être parfois plus sérieuse, mais aussi de la technologie ludique au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Bien, merci beaucoup, Alban. À la prochaine.
Merci beaucoup.
Le transport adapté est un sujet qui fait mal. C'est un sujet qui est douloureux déjà depuis un bon moment. Il y a des problèmes de transport adapté partout en région et aussi dans la région de Montréal. On a vu toutes sortes de dérapages ou de difficultés de service qui ont fait les manchettes au cours des derniers mois. La Société de transport de Montréal est en train de tourner le coin et de trouver des solutions. On a avec nous aujourd'hui Mme Chantal Fortier, qui est directrice du transport adapté pour la STM. Bonjour Mme Fortier.
Bonjour M. Bourregard, bonjour à tous, bon midi.
Rendu à la mi-août, on avait l'impression que le transport adapté dans la région de Montréal était vraiment à son plus bas. Il y avait presque des bris de service. On demandait aux gens de n'utiliser le transport adapté que pour des raisons médicales et presque rien d'autre. Depuis ce temps-là, on commence à remonter la côte.
Effectivement, vous avez l'air juste. La pénurie de chauffeurs nous a frappés à la mi-août. Puis actuellement, là, on est en train de remonter la pente, comme vous le dites. Là, dans les prochaines semaines, là, si tout va bien, là, on devrait avoir passé au travers une bonne partie de cette crise-là.
La STM, qu'est-ce que vous avez fait pour régler le problème? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 15 août?
Depuis le 15 août, je dirais qu'au printemps, on a bonifié les contrats taxis. Là, on a offert une prime pour contrer là, les augmentations qu'on a vues au niveau du carburant pour pouvoir aider les chauffeurs de taxi. Par la suite, dès le début de l'été, on s'est assis avec l'industrie du taxi et on a négocié le contrat pour pouvoir venir ajuster notre contrat qui répondait plus aux besoins. Donc, suite à l'annonce de la CTQ, où est-ce qu'il y a eu l'augmentation du taximètre, on a pu, suite à ces négociations-là, offrir un contrat plus attractif pour les chauffeurs. Donc, depuis le 12 septembre, le nouveau contrat est en vigueur. L'industrie du taxi aussi fait beaucoup d'efforts pour recruter des chauffeurs. Donc, ça nous a beaucoup aidé dans les dernières semaines là, pour pouvoir conserver les chauffeurs qu'on a dans nos équipes et aller recruter de nouveaux chauffeurs.
Parce que la contribution des compagnies de taxi est importante, de l'industrie du taxi. C'est 88 % des déplacements du service de transport adapté qui est assuré par ces intermédiaires-là de l'industrie du taxi. Combien de voyages est-ce que ça représente par année sur votre territoire?
Nous, par jour, je vous dirais que c'est environ, là on est rendu peut-être à 7400 déplacements par jour qu'on effectue. Sur les 7400 déplacements, comme vous le dites bien, 88% des déplacements sont effectués par l'industrie du taxi. Donc, c'est vraiment un partenaire, un joueur clé. Il y a un 12% qui est effectué par nos chauffeurs en régie, nos chauffeurs minibus.
Oui, ça c'est la flotte de minibus que la STM possède. Qui fait le reste, si je peux dire. Mais c'est certain que tous les intermédiaires de l'industrie du taxi maintenant ont signé cette entente avec vous. Toutes les parties sont heureuses des nouvelles modalités d'être adéquatement rémunérées pour le travail, étant donné la hausse des coûts. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent changer, comme par exemple l'adaptation des véhicules?
Oui, c'est sûr que bon, il y a un bout que nous, on a pris à même nos contrats pour attirer les chauffeurs. Donc, vous savez, il y a une prime qui est offerte aux chauffeurs, une subvention, si on veut, qui est offerte aux chauffeurs pour l'adaptabilité des véhicules qui ne répond pas aux besoins actuellement. Donc, la STM a pris sur ses épaules de venir bonifier pour pouvoir encourager les chauffeurs à adapter leurs véhicules. Puis par la suite, bien, on fera les représentations qu'on a à faire auprès des partenaires là, qui travaillent avec nous là, pour qu'on puisse améliorer cette situation-là. Mais ça fait partie du contrat, un incitatif pour que les chauffeurs veulent venir faire du transport adapté.
Parce que je pense que le chiffre que j'ai en tête, c'est 20 000 $ là, qui était accordé traditionnellement pour l'adaptation d'un véhicule. Mais maintenant, ça coûte plus cher que ça pour y arriver. C'était un frein pour plusieurs intervenants dans le domaine qui ne voulaient tout simplement pas s'embarquer dans une aventure financière qui était en fait pas payante, là, déficitaire.
Exact. Pour le taxi accessible, comme vous le dites bien, là, c'est qu'il y a un, l'adaptabilité du véhicule, et de deux, l'acquisition du véhicule.
Oui.
Donc, avant, les chauffeurs pouvaient acquérir un Dodge Caravan, là, si on veut.
Ben, ça, c'était la Dodge Caravan, là, c'était comme la marque standard. Là, oui. Presque tous les véhicules de transport adapté partaient de là.
Oui, qui répondaient aux besoins. Là, la Dodge Caravan n'est plus sur le marché, donc les gens doivent se retourner, entre autres, vers le Pacifica, qui est beaucoup plus cher à l'achat. Donc, pour un chauffeur de taxi accessible qui souhaite en faire sa carrière, bien, déjà, la subvention qui répond pas, qui couvre pas tous les besoins pour adapter le véhicule, puis il doit être en plus débourser un montant substantiel, si on veut, parce que le coût de la Pacifica est beaucoup plus élevé que celui du Dodge Caravan. Donc, ça vient limiter les opportunités pour les chauffeurs de taxi accessible d'aller vers ce métier-là.
Et je pense qu'il y avait aussi une question de l'âge du véhicule qui posait problème, parce qu'on demande un véhicule neuf. Est-ce qu'il est possible d'envisager un élargissement pour qu'on puisse avoir des véhicules usagés, mais en bon état, là, on parle pas de on parle pas de carcasse, là?
C'est des demandes qui ont été faites au ministère pour voir si c'était possible d'élargir cette contrainte-là, puis en tenant compte aussi du contexte. C'est sûr qu'un véhicule qui opère, je veux dire, à Saguenay, là, au Saguenay, puis ça, je veux pas dénigrer les régions, versus à Montréal, l'utilisation peut être différente, donc l'usure peut être différente, mais je pense qu'on a moyen de se doter d'outils pour pouvoir essayer de conserver une partie de la flotte, là, puis qu'elle soit en bon état.
D'accord. Du côté de la STM, vous avez quoi? Combien de minibus vous avez?
Nous, on a 86 minibus.
D'accord. Est-ce qu'il y a des plans ou des discussions pour accroître votre flotte ou à la longue, le besoin étant croissant, ça va être de plus en plus... Le 88% de l'industrie du taxi va tendre à augmenter ou voulez-vous garder la parité? Comment vous voyez ça?
Actuellement, je vous dirais que ça fait des années que la 88%, là, si on veut, là, se maintient dans ces eaux-là et le 12% aussi se maintient dans ces eaux-là. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque véhicule répond à un besoin de la clientèle. Donc,
c'est ce qui veut dire que, vous ne pouvez pas créer plus de minibus si ça ne correspond pas aux besoins, aux besoins des usagers. Je pense que Mme Fortier est malheureusement, n'est plus avec nous. C'est un des aléas des communications téléphoniques. Alors, pendant que mon collègue, M. Tessier, tente désespérément de la rejoindre, elle est de retour. Ah, mais c'est formidable. Mme Fortier, je m'excuse, il y a eu une petite interruption.
Désolée, donc...
Il n'y a pas de quoi.
Je ne sais pas où est-ce que c'est l'équipé, mais...
Ah, c'est pas grave, on est ensemble, c'est ce qui compte. On parlait de la proportion d'utilisation des véhicules de la STM qui sont, comme vous dites, adaptés à certains besoins. Donc, la proportion de 12% du transport adapté assuré par la STM, ça va se maintenir.
Quitte ça va se maintenir, à moins que le type de clientèle change. Donc, si on a de plus en plus de clients qui ont besoin... des services de minibus là, parce qu'on a besoin d'une rampe plus large, des choses comme ça, bien là, ça l'augmenterait. Mais pour l'instant, les trois types de véhicules répondent bien selon la proportion aux besoins de notre clientèle.
Et cette entente avec les chauffeurs, les intervenants de l'industrie du taxi, vous avez quand même mis presque 7,5 millions de dollars sur la table de plus. Pour offrir des conditions qui étaient plus compétitives. Est-ce que depuis cette annonce, depuis la mise en place de ce nouvel arrangement, est-ce que de nouveaux chauffeurs ont été recrutés? Est-ce que le nombre commence à augmenter?
Oui, c'est une bonne nouvelle. À la MIU, notre bassin de chauffeurs, si on veut, était à 500 chauffeurs. Puis actuellement, à la fin de septembre, là, on est en mesure de vous dire qu'on a 630 chauffeurs de taxi. Donc, on voit que ça augmente considérablement. Donc, les formations, les accréditations. Donc, on est dans la bonne voie.
Il y a une vague. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on peut envisager qu'éventuellement, il y avait des contraintes qui avaient été imposées aux usagers quand on était dans le creux de vague, là, il y avait une difficulté d'avoir la présence d'un parent ou d'une personne accompagnatrice. Ça avait été mis de côté un peu. Puis il y avait des restrictions aussi sur les motifs de déplacement, je pense. Est-ce que vous êtes en train d'élargir ça de nouveau?
Oui, justement, ce matin, on se rencontrait encore à nouveau, mais tous les jours, on suit l'évolution, là. Donc, notre objectif, c'est vraiment de ne pas devoir annuler de déplacement à nos clients. Donc, pourquoi on a restreint au niveau de l'accompagnateur facultatif, c'était vraiment pour permettre plus de déplacements à nos clients qui sont admis. Déjà en début septembre, on a pu permettre l'accompagnateur facultatif pour les déplacements médicaux. Puis on devrait être en mesure là, prochainement là, de retirer certaines contraintes là, qu'on a dû mettre là, pour pouvoir répondre à la demande.
Parce que vous commencez à avoir assez de chauffeurs puis assez de véhicules, voilà.
Assez de chauffeurs, puis on est en mesure de voir que c'est une reprise soutenue. Donc les gens restent, donc on peut se permettre là, de lever certaines restrictions.
Est-ce que vous avez une idée de si vous êtes passé de 500 à 630, est-ce qu'il y a une étude du marché potentiel de personnes qui pourraient adopter le transport adapté comme étant, je dirais, une façon de gagner sa vie, de devenir chauffeur dans ces conditions-là? Est-ce que vous avez un objectif? On devrait se rendre à quoi? 700, 800?
Avant la pandémie, on effectuait près de 11 000 déplacements par jour, puis on avait 900 chauffeurs de taxi pour effectuer les 11 000 déplacements. Donc, actuellement, on effectue comme 7 400 déplacements à 630 chauffeurs. Donc, le maximum qu'on pourrait atteindre, je pense, pour revenir avant la pandémie, c'est 900 chauffeurs, mais le besoin n'est pas là encore parce que la reprise des déplacements n'est pas à 11 000. Donc, j'ai vraiment bon espoir que les gens vont revenir vers la vocation puis qu'ils vont rejoindre nos équipes.
Ah, ben ça, c'est super. Mais ce sont des bonnes nouvelles, Mme Fortier. On va suivre le dossier de près parce que c'est quelque chose qui nous touche quotidiennement. Madame Chantal Fortier, directrice du transport adapté pour la Société de transport de Montréal, merci. Et
merci
on
beaucoup,
se reparlera tout à fait au cours de la prochaine année pour voir les progrès de ce côté-là.
Avec plaisir.
De notre côté, après la pause, M. Pierre Nadeau, on parle de logements adaptés sur la rive sud de Montréal.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour, il y a à peine quelques jours, l'Association d'information en logement et immeubles adaptés, qui est un organisme de la Montérégie, déposait un mémoire auprès de la communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre de la consultation sur le projet de politique métropolitaine d'habitation. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir en notre compagnie M. Pierre Nadeau. Bonjour M. Nadeau.
Bonjour.
Vous êtes agent de développement pour l'Association d'information en logement immeubles adaptés qui couvre en bonne partie la Montérégie. Et qu'est-ce que c'était ce mémoire? Qu'est-ce qu'on y retrouve?
Bon, nous, ce qu'on a voulu faire ressortir dans cette consultation-là, c'est de sortir les fils qui étaient déjà sortis dans le bulletin passerelle de nos PSQ pour mettre en évidence que les personnes handicapées sont plus enclins que les autres citoyens à avoir des problèmes à trouver des logements.
Oui. Et il y a beaucoup de discrimination. Ça c'est, moi, je pense que c'est le premier obstacle là, des gens qui se font refuser un logement.
Il n'y a pas de ça.
Oui.
Nous, ce qu'on a, une banque de logements principalement dans l'agglomération de Longueuil avec des édifices à logements offrant un minimum d'accessibilité. ça veut dire qu'ils peuvent entrer dans l'édifice puis dans l'homme, mais ça veut pas dire que l'homme, l'intérieur est adapté.
Ah, ouais, je vois. Ouais. Ben c'est pas parce qu'il y a une rampe à la porte d'entrée que les comptoirs sont à bonne hauteur.
Ouais. Puis ça, l'affaire, c'est l'homme. C'est l'édifice à l'homme, là. Ça aussi, moi, dans les taux d'habitation haut de gamme, ou encore dans les habitations à loyer modique, avec pas grand-chose entre les deux.
Ah, OK. Donc, il y a des gens qui sont, comment je dirais ça, qui bien c'est trop cher, ou bien ils se qualifient pas pour un loyer modique.
Ouais, c'est ça. L'accès, c'est un problème. Ben, parce que, tu sais, il y a certaines. Il y a certaines habitations gérées par des corporations sans but lucratif ou des coopératives. Mais encore là, il y a des listes d'attente.
Oui.
Puis le problème, c'est qu'il y a des groupes de parents interrompus pour les clientèles de la déficience intellectuelle ou du spectre de l'autisme, qui mettent des ressources sur pied.
Oui, ben ça va, ça, ouais, ça fait dévier un peu les efforts, peut-être pas toujours dans la bonne direction.
Oui, parce que moi, ce que je trouve adhérent, c'est que le logement, c'est censé être un droit. Puis quand on voit des parents être obligés d'aller quêter dans les centres commerciaux ou les épiceries pour mettre des ressources sur pied, et c'est pas ça, c'est le droit, là.
C'est pas normal, ça devrait pas, exister, ça.
Puis l'affaire, c'est sûr qu'il y a des parents qui ont la fibre entrepreneuriale. Mais encore là, est-ce que ces parents-là vont toujours être là?
Non, puis c'est pas tout le monde qui a cette fibre-là aussi.
Oui, exactement.
Dès le départ, est-ce que vous avez à l'association une idée du nombre de logements qui manquent dans l'offre en Montérégie? Parce que toutes ces listes d'attente-là, ça signifie qu'il n'y en a pas assez, là, c'est clair.
Mais quand on regarde nos fils au 31 mars dernier, dans l'agglomération de Longueuil, qui couvre Longueuil et les villes des fusionnés, il y en avait 59. Puis il y en avait 42 autres dans le reste de la Montérégie, dont 18% d'entre eux étaient dans la région du Mont-Richelieu.
Mais là, ça couvre pas mal grand, là.
Ouais. Là,
c'est une Montérégie large. On est en dehors du noyau urbain. Parce que y a le besoin de logement est élevé pour tout le monde, mais en termes de logement adapté ou abordable, le retard est encore plus grand.
Encore là, les gens qui nous appellent, ils nous demandent des logements adaptés. Là, il faut qu'on leur explique la différence entre un logement accessible ou un logement adapté. C'est pas toujours pareil.
Ça revient un peu à ce dont vous parliez tout à l'heure, qu'il peut bien y avoir une rampe à l'entrée, mais ça ne veut pas dire qu'une fois rendu à l'intérieur de l'unité d'habitation, le mobilier puis les arrangements soient là pour que ça soit adapté.
Mais là, il y a tout le processus de faire une demande d'adaptation de domicile, d'aller courroyer les évaluations de l'ergothérapeute, la liste d'attente, les estimés des entrepreneurs. C'est pas toujours évident, là.
Ben oui, puis ça va décourager les gens, fait, qui vont abandonner le projet.
Exact. Mais le besoin est là.
Dans un monde idéal, c'est sûr qu'il devrait y avoir, d'une part, un coup de pouce pour que les entreprises à but lucratif qui louent des immeubles puissent trouver leur compte. Mais avec la hausse des coûts de la construction, ça réduit encore plus l'attrait, là.
Se révouer des améliorations qui ont été apportées au Code de construction du Québec, on commence à voir des édifices à logement avec le rez-de-chaussée au niveau du sol.
Ah, OK.
Mais encore là, est-ce que les loyers sont abordables à 1 000 $ et plus par mois? C'est pas évident.
Non, parce que 1 000 par mois, c'est 12 par année, ça, en coût, puis on n'a pas encore mangé à cette...
C'est ça, là.
Ouais. Ça, vous avez fait mention des changements au code de la construction. Ça, c'était au début de l'année 2022. Tant mieux si ça commence à se refléter dans le marché. Est-ce que, on parle de la Montérégie, mais est-ce que vous avez une idée comment ça se compare vis-à-vis d'autres régions du Québec? Est-ce que la Montérégie est en retard ou en avance?
Bien, je peux parler pour surtout pour l'agglomération de Longueuil, là. Historiquement, toutes les ressources, les services pour personnes handicapées physiques est à Montréal. Puis ça arrive sud, les organisations de personnes handicapées en troubles physiques sont pas aussi bien structurés qu'à Montréal.
D'accord. Alors déjà là, il y a une différence.
Mis à part la déficience visuelle avec l'Institut des arrêts de Louis-Braille à Longueuil. Mais au niveau des... C'est moins problématique sur l'île de Montréal. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème à Montréal. Ce que je dis, c'est que le problème est encore plus aigu.
Oui.
Dans l'agglomération de Longueuil.
C'est pas que ça va mieux à Montréal, c'est que ça va encore moins bien à Longueuil.
Exact.
C'est pas une façon positive de le dire, mais c'est un reflet de la réalité. L'association a déposé un mémoire. Est-ce que vous avez l'impression qu'il va y avoir un suivi à tout ça? Est-ce que vous avez bon espoir que votre voix va être écoutée?
Ben, si je me fie aux commentaires que M. Jonathan Tabarot de la ville de Longueuil m'a fait la semaine dernière, il a dit que notre présentation avait été la campagne. Maintenant, là, il va falloir voir si... dans les faits, qu'est-ce qu'ils vont faire avec avec nos doléances?
Oui, ben je pense que va falloir que vous continuiez à les talonner parce que c'est souvent ceux qui parlent le plus fort et le plus souvent qui finissent par se faire entendre. Alors ça, ça va exiger un suivi de votre part. Bien, on va faire ça ensemble. On va se reparler de ce sujet-là, voir à quel point la situation peut s'améliorer, puis s'il y a une volonté politique suite au dépôt de votre mémoire auprès de la commission. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Pierre Nadeau, agent de développement pour l'Association d'information en logement et immeubles adaptés. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Au plaisir.
De retour, nous avons en notre compagnie aujourd'hui M. Guillaume Parent. M. Parent, je vais faire un peu le résumé de tout ce que vous faites. Alors, comme ça, ça va éclairer les gens. Vous êtes conseiller en sécurité financière. Vous êtes président de FinHandicap, qui est une société de conseil et de planification financière. Mais vous êtes aussi, dans d'autres moments de votre vie, travaillé au Centre d'expertise et handicap de FinAutonome, qui est un organisme qui voit à la promotion de la santé financière pour les personnes en situation de handicap. Et aussi, vous faites partie aussi, vous êtes partie d'un organisme pan-canadien qui s'appelle Handicap sans pauvreté. Et c'est à ce sujet-là aujourd'hui qu'on se parle. Bonjour.
Ça va bien.
Parce que je parle de tout ce que vous faites, parce que vous êtes impliqué à plusieurs niveaux, Mais dans le cadre de l'organisme pan-canadien qui s'appelle Handicap sans pauvreté, il y a eu, je pense, une rencontre, une dîner-causerie la semaine dernière ou il y a 10 jours. Oui. Puis de quoi est-ce qu'il s'agissait exactement?
Alors, on se rappelle, il faut aller 2 ans en arrière, en 2020, le gouvernement Trudeau, dans son discours du trône, fait part de son intention de mettre sur pied une prestation pour diminuer ou enrayer la pauvreté chez les personnes handicapées en âge de travailler. Donc, c'est une promesse ambitieuse qui amènerait un surplus dans les postes des personnes handicapées, un surplus mensuel. Donc, et c'est à partir de cette intention-là qu'il y a eu un mouvement de plusieurs organismes sous la bannière du handicap sans pauvreté.
Et ça, c'est un organisme qui est pan-canadien, oui. qui regroupe des gens là, de selon l'expression.
C'est pas un organisme, c'est un mouvement.
Un mouvement.
Donc, le mouvement, dans le fond, c'est pas par les personnes handicapées, pour les personnes handicapées, pour justement rappeler à nos élus que cette promesse-là, ils doivent la tenir le plus rapidement possible. Et c'est aussi pour mobiliser, oui, les personnes en situation de handicap, oui, les organismes, mais aussi la population en général de cette future prestation-là.
Parce qu'il faut quand même préciser qu'on parle d'une prestation qui fait le pont entre les mesures qui existent déjà pour les personnes mineures qui sont en situation d'handicap et les filets sociaux qui existent pour les personnes de 65 ans et plus. Le problème étant les gens en situation d'handicap qui sont en âge de travailler de 18 à 65. C'est là que les problèmes d'employabilité, le taux de chômage élevé, le taux de pauvreté beaucoup plus élevé chez les personnes en situation d'handicap,
Exactement. Donc, en effet, dans son plan d'action contre la pauvreté, le gouvernement fédéral, par la prestation canadienne pour personnes handicapées, en effet, pour les personnes en situation de handicap, combler le vide. Hein, vous l'avez dit, là, à l'enfant, on accorde des allocations par an. Aux aînés de 65 ans et plus, on accorde une pension familiale qui est exprimée de revenus garantis. Donc, l'idée, c'est de un peu s'inspirer du supplément de revenus garantis pour les aînés, qui assure à peu près un revenu de 7 000 par année, ben d'offrir pas mal la même chose aux personnes en situation de handicap, qui, on sait, est une période de la population qui certains travaillent, d'autres non, d'autres peuvent pas. Donc, qui a à vivre avec une pauvreté plus importante que la population en général.
Oui, les chiffres à ce sujet-là sont incontournables. Là. 25 % des Canadiens en situation d'handicap, consacrent plus de 30 % de leur revenu total à se loger. Puis ça, on sait que c'est comme un baromètre de difficultés financières. Et 59 % des Canadiens et Canadiennes en situation d'handicap ont un emploi, alors que c'est 80 % du reste de la population qui sont employés. Alors, le taux de chômage est beaucoup plus élevé et ça a toutes les conséquences qu'on peut penser. Là, on maintenant rendu aujourd'hui avec cette promesse-là, semble commencer à prendre forme. Il y a une loi qui a été déposée par le gouvernement fédéral au Parlement à Ottawa et on commence la deuxième lecture, je pense.
La deuxième lecture a été tellement dépassée. Donc, on s'est parlé la veille. Donc, c'est intéressant de voir que la deuxième lecture de trois, en rapport à vos auditeurs, qu'il y a toujours trois lectures avant l'adoption d'une loi au Canada. Donc, ça a eu lieu vendredi passé et j'ai écouté les débats. Tous les partis ont l'air unanimes sur le principe de cette loi-là. Donc, personne ne semble s'y opposer. Maintenant, le projet de loi en tant que tel, c'est un cadre. Donc, cette loi-là, même si elle est adoptée, n'existe pas encore qui va être vive, combien seraient les prestations. Tous ces détails-là vont être déterminés suite à l'adoption de la loi par règlement.
D'accord.
Donc, c'est là qu'on va avoir tous les détails, mais c'est important de garder la pression sur les parlementaires pour qu'ils adoptent cette loi-là au plus vite avant que le gouvernement en place ne tombe.
Oui, parce qu'on se souvient que c'est un gouvernement minoritaire qui tient grâce à l'appui d'un des partis minoritaires. Là. C'est un gouvernement libéral qui tient avec l'appui du NPD. On sait qu'il y a eu des changements dans le décor politique à Ottawa récemment, hein, au Parti conservateur. On ne voudrait pas que... perde de vue.
C'est important. Comme on dit sur notre site, le que tout le monde qui se sent interpellé soit appel ou écrit à leur député ou même nous ils peuvent envoyer leur histoire personnelle. Ce qu'on veut savoir aussi, si vos auditeurs ont été atteints par le chercheur, si vos auditeurs fait un choix des deux bouts, mais ça, on veut le savoir parce que c'est pas mal ce qui parle le plus sur l'urgence d'adopter une telle loi.
Et comment est-ce qu'elle... Parce qu'en écoutant ça, comme personne handicapée, moi-même et de nos auditeurs, on se dit, comment est-ce qu'on peut faire pour canaliser notre voix, notre énergie, est-ce que vous suggérez de communiquer avec notre député? Est-ce qu'il y a d'autres façons d'y arriver? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en ligne qu'on peut consulter?
Le site web du mouvement, c'est un mouvement par et pour les personnes handicapées. Donc, le site web propose des pistes d'action.
D'accord.
Donc, le site web, c'est le handicap sans pauvreté, sans espace, sans accent, .ca.
Alors, le handicap sans pauvreté, comme vous dites, pas d'accent, pas d'espace, toute une série de lettres. Parfait.
Point ca.
Et en allant sur ce site-là, on va trouver des façons de s'impliquer parce que il y a presque, c'est au-delà de 20% des Canadiens qui sont en situation d'handicap. La proportion adulte qui vit dans la pauvreté, c'est un pourcentage important de la population.
Savez-vous, étant donné qu'on est dans la statistique, 14% des personnes sous le seuil de la pauvreté en 2017 fait selon Statistique Canada, c'est déclaré attentionnel.
Oui.
Donc, commencez à lutter par la pauvreté, ben, c'est une personne en situation de handicap, c'est une cible évidente.
Exact. Ben, j'entends dans le creux de mon oreille l'indicatif musical, M. Parent. On va devoir arrêter ici. Merci beaucoup d'avoir été là. Le handicap sans pauvreté.ca. On va aller voir, on va s'impliquer et puis on va se faire entendre. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour pour la dernière demi-heure, notre collègue Camille Cusset est vraiment mal portante aujourd'hui, mais elle a été très gentille. D'abord, on lui souhaite un prompt rétablissement. Et secondo, elle a été très gentille. Elle nous a envoyé toutes ses notes. Alors, on va pouvoir quand même avoir une belle revue de presse grâce au travail de Camille. Avant de commencer, j'aimerais d'abord faire un mea culpa. La semaine dernière, quand je parlais du concours philanthropique qui permettait peut-être un organisme qui caritatif au Québec, qui pourrait peut-être se mériter 100 000 $ en participant à ce concours philanthropique organisé par IA, groupe financier IA comme Industrielle Alliance. Je pense que j'ai fait une gaffe en les identifiant la semaine dernière et je m'en excuse. Pour quelqu'un qui a passé 30 ans de sa vie dans les services financiers, c'était pas fort, mais c'est pas grave, c'est de bon cœur. Alors, le concours philanthropique organisé par IA, groupe financier au cours, les inscriptions sont jusqu'au 14 octobre. Bon, voilà. Maintenant, allons de l'avant. Parlons des para-actualités. Qu'est-ce qu'on retrouve sur notre radar? En France, entre autres, la ministre Geneviève Darrieussecq, qui est la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, revient sur les sujets prioritaires retiennent l'actualité, retiennent les manchettes en France. Il y a eu dans son allocution une importante mise à jour sur les projets d'éducation, mais aussi la solidarité quant à l'emploi. Et finalement, bien, un appel à tous pour être capable d'avoir une mission plus soutenante, école inclusive, emploi, allocation aux adultes handicapés, et qu'on appelle déconjugaliser. C'est-à-dire qu'enfin, au lieu de tenir compte du revenu du couple, si la personne est dans une situation de couple, mais on va uniquement tenir compte de la situation financière personnelle de l'adulte handicapé. Alors, ça enlève un lien de dépendance qui était, je dirais, sous-entendu dans une situation comme celle-là. Et ça, c'est une fort bonne chose. On se transporte à Rabat, au Maroc. Une convention de partenariat visant la promotion des conditions sociales des personnes en situation difficile, en particulier ceux en situation de handicap. Alors, cette convention a été entériné entre le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, d'une part, et la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants. Hassan II, on le sait, c'est le roi du Maroc. Alors, sa fondation et le ministère ont établi ensemble des cadres qui permettent d'échanger des programmes de part et d'autre, de former les cadres être plus en mesure d'adresser des situations d'handicap et également ça permet d'avoir des prestations qui vont aider les enfants, entre autres en situation d'handicap, à avoir un parcours scolaire. Alors, on parle de création de projets générateurs de revenus et la mise à disposition d'aides techniques. Alors cette entente a été signée à Rabat il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. À Bruxelles, on le sait, c'est pas juste la capitale de la Belgique. À Bruxelles, c'est aussi le siège de la communauté européenne, enfin d'une bonne partie de ses fonctions. Alors, des personnes avec un handicap manifesteront le 27 septembre, ça c'est demain, à Bruxelles, pour plus d'inclusion. Des personnes porteuses d'un handicap manifesteront le 27 septembre à Bruxelles. C'est intéressant, l'expression « porteuse d'un handicap ». Ce n'est pas une expression qu'on utilise ici au Québec, mais on se comprend tout à fait. Alors, manifesteront demain, 27 septembre, pour être mieux incluses dans la société, alors qu'elles restent trop souvent dirigées vers des filières emploi ou encore logement, entre guillemets, à part, une façon de ghettoiser les gens. A annoncé mardi l'association sans but non lucratif flamande GRIP, dans un communiqué, la marche baptisée Freedom Drive, hein, alors Freedom Drive, est organisée par le réseau européen pour une vie autonome ENIL. Et on partira on va faire un parcours dans la rue et pour se faire voir face au Parlement européen, place du Luxembourg. On verra exactement qu'est-ce qui va en ressortir, mais les personnes porteuses d'un handicap sont encore exclues de ce qui va de soi pour les autres, comme l'enseignement, l'emploi, le logement, des revenus, etc. Nous nous retrouvons trop facilement dans des institutions résidentielles à part, des entreprises ou des écoles à part, parce que l'encadrement nécessaire pour vivre en société et y participer fait défaut. Et voilà ce qu'on en dit à Bruxelles. On vous revient dans une seconde, on retourne au Canada. Ah, j'ai demandé à mon collègue, M. Tessier, d'avoir une émission rock'n'roll. Il m'a pris au pied de la lettre. Alors, voilà. C'était Michel Pagliaro, Jam aux fruits. On remonte 50 ans derrière. On va retourner, on revient au Canada. On va parler d'emploi, d'employabilité pour les personnes en situation de handicap. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire une parenthèse au sujet d'un texte écrit par M. Labeaume, ancien maire de Québec. M. Labeaume a écrit une chronique régulière dans la presse. Et le 6 septembre dernier, dans le cadre de sa chronique, qui se veut à la fois humoristique et un commentaire social, parlait de la pénurie de main-d'œuvre dans toutes sortes de secteurs de l'économie, entre autres de la restauration. Il trouvait que ses sandwichs n'étaient pas faits comme avant. Et là, ça l'amenait à un discours au sujet de l'employabilité. Et dans ce sens-là, à la partie sérieuse de son discours, il a dit quelque chose comme quoi on propose même d'employer davantage de personnes en situation d'handicap. Et dixit, M. Labeaume, est-ce qu'on en est rendu là? Alors, évidemment, on va utiliser un mot simple. Là, c'est très insultant de se faire dire une chose pareille. Je ne sais pas où M. Labeaume loge et à cette enseigne, mais enfin, quoi qu'il en soit, ça a certainement déclenché une vague, d'outrage bien méritée. Et il y a eu en fait une lettre qui a été écrite par M. Caouet, qui a une chaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Nous aurons le plaisir de nous entretenir avec M. Caouet de l'employabilité des personnes en situation de handicap. Et de sa lettre de réponse à M. Labeaume. Ça, ce sera la semaine prochaine. Mais parlant justement d'employabilité en situation d'handicap et dans un secteur de l'économie qui est traditionnellement assez difficile à percer, c'est le secteur minier. Il y avait récemment à Timmins en Ontario, et Timmins en Ontario, c'est dans le nord ontarien, c'est une région minière, là, c'est un bassin de minerais depuis longtemps exploité. Et il y avait la semaine dernière une réunion, une conférence de l'Association de génie minier de l'Ontario, et en fait qui est fait partie de l'Association canadienne de pétrole, métallurgie et des mines. Et dans l'intérieur, faisant partie de ce congrès, il y a un monsieur G.C. Doyle, qui est un spécialiste de la diversité et de l'inclusion avec le gouvernement ontarien, qui est venu s'adresser aux membres de la conférence qui étaient des dirigeants de sociétés minières. Le domaine minier était traditionnellement quelque chose, en termes d'emploi. Là, ce sont surtout des hommes qui ne sont pas en situation d'handicap. Là, il y a relativement peu de femmes qui descendent dans les mines et encore moins des situations avec des personnes en situation d'handicap. Et il a rappelé justement à l'industrie minière, aux gens qui étaient là, qu'il était important de faire des progrès en termes d'inclusion et que l'inclusion n'était pas simplement une inclusion de genre et une inclusion de communauté culturelle et qu'il y avait un bassin de talents qui était tout à fait inexploité au Canada. Et d'abord, il a commencé par un chiffre qui est simple. 22% des Canadiens, des adultes canadiens, vivent une situation d'handicap et cet énorme bassin de population qui correspond à la population de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba réunis, ça fait que c'est peut-être là que se retrouve une partie de la réponse pour le manque de main-d'œuvre. Et il, dans sa conférence, M. Doyle s'est entre autres attaqué à certains mythes. Un mythe qui, évidemment, peut avoir beaucoup d'importance dans une industrie comme l'industrie minière, c'est au sujet de la sécurité. Bien, en fait, il est démontré que les personnes en situation d'handicap ayant, par la force des choses, appris à être prudentes, généralement, le taux d'accident diminue en leur présence parce qu'ils ont, ils ou elles ont, de bonnes habitudes en termes de sécurité. Et ça a tendance à déteindre sur leurs collègues qui sont autour d'eux. Et en fait, la présence de personnes en situation d'handicap augmente la sécurité des lieux industriels où ils se retrouvent. Il y a aussi un autre mythe, à savoir est-ce que les personnes en situation d'handicap sont fiables ou loyaux. Mais là encore, l'assiduité des personnes en situation d'handicap est 5 fois supérieure à celle des personnes valides. Et de la même façon, le taux de rétention est de 72% plus élevé. Alors, voilà des mythes qui ont été déboulonnés quant à l'employabilité des personnes en situation d'handicap dans un milieu aussi, dur physiquement que le domaine minier. Alors, peut-être il serait bon que M. Labeaume aille assister à un congrès minier bientôt et puisse en discuter avec ces gens-là. Plus près de nous, parlons d'une petite entreprise québécoise qui s'appelle LU, L-U-U-TREMA. Alors, l'U fait des dons de produits technologiques à des écoles de Latuc et de Repentigny. L'U est une petite société de la région de Québec. Et deux écoles du Québec peuvent désormais offrir une expérience d'apprentissage immersive à leurs élèves grâce aux dons de systèmes par l'U, aire de jeu interactive. Et ce qu'ils font, c'est assez original. La jeune entreprise de Québec transforme des gymnases, des écoles, en expériences éducatives interactives qui favorisent l'apprentissage, le mouvement et la collaboration. En fait, ils créent un lieu, je dirais, ludique dans un espace, mais ça permet de créer de nouvelles expériences pour les élèves qui s'y retrouvent et ça favorise différents degrés d'apprentissage et de collaboration. En tant qu'entreprise québécoise, nous voulions maximiser l'impact de notre 1000e système, alors disons pas leur première expérience, en l'offrant à une école québécoise où notre produit aurait le plus grand impact, autant sur les enfants que sur la communauté. C'est ce qu'a dit M. Vincent Routier, qui est président de l'UR de jeux interactifs. Au terme d'un long processus, le jury, ou enfin l'entreprise, a choisi deux écoles parmi plus de 200 candidatures et leur ont offert justement des aires de jeu ludiques. L'entreprise a installé son système primé dans le sens qu'ils ont reçu des prix, on se comprend, à l'école Alphonse Desjardins de Repentigny, qui offre un enseignement adapté aux enfants ayant des problèmes neurodéveloppementaux complexes, et à l'école centrale de Latuc, en Mauricie, où de nombreux enfants n'ont pas accès à la technologie et au divertissement que l'on trouve dans les grandes villes. Trois autres écoles de Latuc pourront également, en fait, participer ou avoir accès au système LU. Alors, chaque école a reçu une unité complète de valeur de 30 000 $ comprenant le système LU UNO, une formule d'application pédagogique en plus des installations. Alors, l'interaction, je dirais la stimulation et amener les élèves à avoir une collaboration entre eux, entre elles, dans un espace ludique, ben, ça a des effets très positifs. Et pour Marie-Hélène Pedneault, directrice adjointe de l'école centrale, la mise en place de l'U aura des retombées inestimables. C'est la touche magique qui mettra des étoiles dans les yeux de nos élèves, des concitoyens de notre ville. Alors bravo à l'école Alphonse Desjardins, Joanne Lapointe, la directrice. J'ai toujours aspiré à aider mon équipe à diversifier ses méthodes d'enseignement afin d'émerveiller nos élèves. Alors voilà ce qui s'est passé dans ces deux écoles grâce à une entreprise de Québec. Plus près de nous à Montréal, l'Institut national canadien pour les aveugles, l'INCA, vous lance l'invitation suivante. Joignez-vous à nous lors du congrès Point de connexion 2022. La plus grande vitrine de technologies et de services dédiés aux personnes ayant une limitation visuelle et ceux qui souhaitaient leur ouvrir leurs portes, ainsi qu'une importante expérience d'apprentissage et de perfectionnement professionnel. Alors, le congrès Point de connexion, éducation, techno et emploi, c'est le 12 octobre en personne à Montréal, le 12 octobre dans deux semaines, à Montréal, en personne le 12, et le 18 octobre, un congrès virtuel en français. Pour vous y inscrire, pour y assister, allez sur inca.ca, point de connexion, tout d'un mot, pour tous les détails. Vous allez pouvoir vous inscrire, vous allez pouvoir avoir les détails tout exacts pour être participant, donc le 12 octobre en personne et le 18 octobre, ce sera en mode virtuel. Ça nous permet parfois de franchir de grandes distances. Pour terminer, j'aimerais vous parler d'un film, qui va sortir en salle au Québec très bientôt. Il s'appelle « Au-delà des mots, paroles de proches aidants ». C'est vraiment touchant, mais c'est vrai. Le film « Au-delà des mots, paroles de proches aidants » sera projeté gratuitement dans tout le Québec dès aujourd'hui, 26 septembre, avec plus d'une trentaine de dates prévues. On va y revenir tout à l'heure. Ces projections mettront en lumière la réalité souvent méconnue des personnes proches aidantes. Et le film porté par l'appui pour les proches aidants, ce documentaire plonge le spectateur dans les parcours d'Édith Fournier et Michel Carbonneau, aidant leurs conjoints respectifs pendant 14 ans, du diagnostic de la maladie d'Alzheimer jusqu'au deuil. Alors, le film suit deux couples qui passent au travers de toute cette épreuve au fil du temps, alors qu'une personne sur quatre est proche aidante au Québec. Nombreux sont ceux et celles qui reconnaîtront leur réalité de proche aidant dans le témoignage d'Edith et de Michel. Au-delà des mots, paroles de proche aidant partout au Québec, des Laurentides à la Côte-Nord, en passant par la Mauricie, la Gaspésie, une trentaine de projections sont prévues. Les entrées sont gratuites et on peut réserver en ligne. Et ça, invitez d'autres de vos amis, parce que je pense que c'est important si vous vous reconnaissez dans ces témoignages-là et que vous voulez que d'autres comprennent votre vécu. Ça peut vous amener à être mieux soutenu aussi. Avec ces diffusions, nous voulons faire savoir aux Québécois, Québécoises, qui se reconnaîtront dans le parcours d'Edith et Michel, que des services existent pour les accompagner et qu'ils ne sont pas seuls. explique Guillaume Joseph, directeur général de l'appui pour les proches aidants. C'est une œuvre inédite entre l'art et le réalisme, en alternance et dans un langage souvent poétique. Édith Fournier et Michel Carbonneau racontent leur cheminement à domicile comme au centre d'hébergement. Ils confient également avec justesse les émotions qui ont jalonné chacune des étapes de leur parcours, parce qu'on peut comprendre la mouvance, l'océan d'émotions au travers duquel on navigue. Ce récit à deux voix et le tournage dans les lieux de vie d'Édith et de Michel font d'un long métrage, c'est 1h15, une œuvre inédite, ayant reçu des critiques unanimes lors de sa première présentation au Festival du film de Sherbrooke. Quand on voit des histoires d'autres proches aidants, ça aide à ne pas se sentir seul, nous dit Brigitte Poirier. Le film a été réalisé par Guillaume Chouinard, scénarisé par Guillaume Chouinard, réalisé par Josué Bertolino et produit par les Productions Vives. Alors, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez voir et gagner, je pense, une nouvelle vision, une nouvelle perspective. À Saint-Jérôme, ce soir, à Saint-Eustache, le 28, à Mont-Laurier, le 29 septembre, ce sera à Granby, à Sherbrooke, les vendredis 30, à Chaudière-Appalaches, à Saint-Jean-Port-Joli, le vendredi 30 aussi. Mardi le 4 octobre à Lévis, à Thetford le 5 octobre, à Saint-Georges-en-Beauce le 8 octobre, au Cap Beaumeul, dans les îles de la Madeleine, en espérant que tout aille pour le mieux pour vous là-bas, le 2 octobre, à Gaspé, le 4, ainsi de suite. Et à Montréal, ce sera lundi, le 10 octobre, pour en savoir davantage, allez voir l'appui aux proches aidants ou simplement pitonner au-delà des mots.
J'ai, si vous voulez, j'ai un supplément d'information aussi. À l'émission Au quotidien, avec Hélène Denis, on a reçu le réalisateur et Stéphanie Charette, qui est la directrice des communications. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site, aller télécharger cette entrevue-là.
Ah, ben c'est très gentil, M. Tessier. Vous avez fait beaucoup de choses pour nous aujourd'hui et nous vous en remercions du fond du cœur. Voilà. Tout comme Claire Guérin, notre recherchiste que vous n'entendez pas, mais que vous écoutez au travers de nous. Et on va remercier Alban Thomas, notre nouveau chroniqueur techno. Madame Cusset, prompt rétablissement. On se reparle tout le monde la semaine prochaine, 3 octobre.